Chapitre 4. Complications. 16 août. Aujourd'hui, pour la première fois, je me suis aperçu que Jeanne avait un visage agréable. Le chapeau de Jeanne est un peu de travers, mais elle sourit. Mademoiselle Préfère, vêtue de bleu, avance, recule, sautille, soupire, baisse les yeux, lève les yeux, n'ose pas, ose. Puis, elle enlève son chapeau. Ma gouvernante attrape avec force le chapeau et dit qu'elle n'aime pas voir des vêtements traîner. Puis elle s'approche de Jeanne, lui dit « Mademoiselle » et lui demande ses « nippes ». « Vous regardez la scène, » dis-je à Jeanne. « Elle brille au soleil. »«
Oui, » répond-elle. Elle ressemble à une flamme qui coule.
Je vois que la rivière vous tente. Si mademoiselle préfère est d'accord, je vous propose d'aller à Saint-Cloud, par le bateau à vapeur. Qu'en pensez-vous? Jeanne est très contente, et mademoiselle préfère accepte. Mais ma gouvernante ne veut pas nous laisser partir ainsi. Elle m'emmène dans la salle à manger.
Monsieur, vous ne pensez jamais à rien. Et je dois penser à tout. Vous alliez partir et ne pas me dire ce qui plaît à la petite demoiselle. À cet âge-là, on est bête. On n'aime rien. On mange comme un oiseau. Dites-moi si la petite demoiselle aime les pigeons au petit pois et la crème à la vanille.
Ma bonne Thérèse, faites comme vous voulez et ce sera très bien. Ces dames s'adapteront. Thérèse répond d'un ton sec.
« Monsieur, je vous parle de la petite demoiselle. Si mon dîner ne plaît pas à la vieille fripée, elle pourra bien se sucer les pouces. Je m'en moque. »
Je retourne au salon où mademoiselle préfère fait du crochet, comme si elle était chez elle. Jeanne lève les yeux sur les livres et les tableaux avec un regard presque triste.
« Tenez, lui dis-je, regardez ce livre. »
Il vous plaira, car il contient de belles gravures. La porte s'ouvre et un beau jeune homme apparaît. Thérèse, cette vieille âme simple, jette les gens dans les pièces ou vous les pousse à la tête. J'attends que le jeune homme explique la raison de sa visite. Il s'appelle Gélis. Il est en troisième année à l'école des Chartes. Et il prépare depuis 15 ou 18 mois sa thèse. Le sujet de sa thèse est l'état des abbayes en 1700. Il a lu mes travaux et il a besoin que je l'aide. Il a aussi besoin d'un manuscrit que je possède. Puis, il me tend une lettre de recommandation signée d'un collègue très célèbre. Pendant que je lis la lettre, M. Gélis regarde Jeanne. Jeanne, elle, tourne quelquefois la tête de notre côté. On ne peut pas rester immobile, n'est-ce pas? Mademoiselle préfère arrange ses cheveux et soupire.
Monsieur, dis-je, je suis heureux de pouvoir vous aider. Vous travaillez sur un sujet qui m'a beaucoup intéressé. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous pouvez emporter le manuscrit que vous cherchez, mais il est gros, et je crains.
Ah, monsieur, me dit Gélis, les gros livres ne me font pas peur.
Je demande au jeune homme de m'attendre et je vais chercher le manuscrit. Je le soulève avec difficulté. Quand je reviens, j'entends M. Gélis et Mademoiselle Jeanne causer ensemble, comme des amis. Le jeune homme soulève le manuscrit avec facilité et le met sous son bras. Puis il me remercie, me rappelle qu'il a besoin de mes conseils, prend un nouveau rendez-vous et s'en va. Il est gentil, ce garçon, dis-je. Jeanne tourne les feuilles du livre et ne répond pas. Nous partons à Saint-Cloud. Septembre, décembre. Les visites de mademoiselle Préfère et de Jeanne à la Cité des Livres ont continué. Mademoiselle Préfère a aujourd'hui sa place habituelle. Elle dit maintenant « ma chaise, mon tabouret ». Elle est très aimable, et je dois être un monstre pour ne pas l'aimer.
je la supporte. Pour Jeanne, Jeanne n'est pas jolie, mais elle a du charme. Je veux lui donner une dot. Je ne suis pas très riche. On ne gagne pas d'argent quand on travaille sur de vieux textes. Mais mes livres ont de la valeur. Tiens, je vois de ma fenêtre Jeanne et Mademoiselle Préfère qui descendent du bus. Jeanne saute comme une chatte. Elle lève la tête, me voit, rit, et Mademoiselle Préfère l'empêche d'agiter son ombrelle pour me dire bonjour. Mais Bonnard, mon ami, n'oublie pas que ta gouvernante est au lit et que tu dois aller ouvrir toi-même ta porte. J'explique que ma gouvernante est malade et propose un dîner au restaurant. Mais Thérèse, autoritaire, sur son lit de douleur, décide qu'on dînera à la maison. Les honnêtes gens, selon elle, ne dînent pas au restaurant. De plus, tout est prêt. Le dîner est acheté. La concierge le cuira. Jeanne veut aller voir si la vieille malade a besoin de quelque chose. Thérèse, bien sûr, la renvoie au salon, mais pas avec dureté. « Jeanne, vous vous occuperez du dessert, » dis-je. « Allez chercher un tablier blanc, je vous l'attacherai. » J'attache le tablier et elle se dirige vers la cuisine. Mademoiselle Préfère, seule avec moi, me regarde avec des yeux pleins de larmes et de flammes, et soupire.
« Je vous plains, » me dit-elle. « Un homme comme vous, un homme important, vivre seul avec une grossière gouvernante. Vous avez besoin de repos, de calme, de soins. Vous pouvez tomber malade. Toutes les femmes voudraient porter votre nom et partager votre vie. »
Je suis désespéré. J'essaie d'expliquer à Mademoiselle Préfère que je ne veux pas changer de vie.
« Non, vous n'êtes pas heureux, » crie-t-elle. Vous avez besoin près de vous d'une personne capable de vous comprendre. Une femme intelligente ne vous refusera pas sa main. Je suis femme, monsieur. Je le sens. Vous trouverez le bonheur dans le mariage. Votre cuisinière n'a plus de force. Elle est sourde. Elle marche mal. S'il vous arrivait malheur la nuit... Tenez, j'ai peur quand j'y pense. Votre santé... Votre chère santé, la santé d'un membre de l'Institut.
Elle s'arrête, épuisée. La situation est terrible. Je ne peux pas dire à Mademoiselle Préfère ce que je pense de ses idées. Si je me fâche avec elle, je perds Jeanne. Je réponds donc avec douceur. Je suis très vieux, mademoiselle, et vos idées arrivent un peu tard. J'y songerai, mais pour l'instant, calmez-vous et buvez un verre d'eau sucrée. » À ma grande surprise, ces paroles la calment. Le dîner est raté. Mademoiselle Préfère me dit qu'elle prépare très bien les plats sucrés. En fait, je suis très inquiet. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps en bon terme avec Mademoiselle Préfère, qui veut m'épouser. Et si elle part, adieu Jeanne. Quand Mademoiselle Préfère va mettre son manteau, je demande à Jeanne quel âge elle a. Elle a 18 ans et un mois. Elle sera majeure et libre dans 2 ans et 11 mois. Comment tenir tout ce temps? Quand Mademoiselle Préfère me quitte, elle me serre la main d'une drôle de façon. J'en tremble. 15 décembre. Je m'assois dans un fauteuil chez Mademoiselle Préfère qui m'a invité à dîner. Je dois être ridicule. Elle me dit que le dîner est fait pour moi seul, même si Maître Mouche est là aussi. Le rôti est immangeable. La servante, désolée, sert quelque chose de liquide qu'on appelle, je ne sais pourquoi, une crème et disparaît. Alors, Mademoiselle Préfère raconte à Maître Mouche tout ce qu'elle m'a dit quand ma gouvernante était au lit. Son admiration pour un membre de l'Institut, ses peurs de me voir malade et seule, son idée qu'une femme intelligente aimerait partager ma vie. Maître Mouche dit oui de la tête. Puis, quand elle a terminé, Il demande avec un agréable sourire ce que j'ai répondu. Mademoiselle préfère, une main sur son cœur et l'autre tendue vers moi, s'écrie.
« Il est si affectueux, si bon et si grand. » Il a répondu « Mais je ne saurais pas, moi, simple femme, répéter les paroles d'un membre de l'Institut. Je vais les résumer. » Il a répondu « Oui, je vous comprends, oui. »
Et elle me prend une main. Maître Mouche se lève, ému, et prend mon autre main.
« Je vous félicite, monsieur, » me dit-il.
J'ai quelquefois eu peur dans ma vie, mais jamais comme ce jour-là. Je dégage mes deux mains, je me lève et dis « Madame, dis-je, je n'ai pas dû être clair. Je ne veux pas me marier. » Mademoiselle préfère me regarde pendant quelques instants avec des petits yeux ronds et secs, puis redevient aimable. D'une voix douce, elle dit
« Ces savants, ils sont comme des enfants. Oui, monsieur Bonnard, vous êtes un véritable enfant. »
Puis elle se tourne vers Maître Mouche, qui ne bouge pas.
« Oh, ne l'accusez pas !» lui dit-elle. « Ne pensez pas de mal de lui, je vous en prie. »
Puis elle se tourne vers moi.
« Faut-il vous le demander à genoux ?»
Je suis horrifié. Mes joues doivent être très rouges.
Notre pauvre ami m'effraie. Maître Mouche, pouvez-vous ouvrir la fenêtre ?
Continue-t-elle. Je m'enfuis dans la rue avec un sentiment de honte. Décembre. Pendant 8 jours, je n'entends pas parler de l'établissement préfère. Mais comme je ne peux rester sans nouvelles de la fille de Clémentine, je me rends à l'institution. Je demande Jeanne. Après un long moment, Mademoiselle préfère arrive, grave, pâle, les lèvres minces, les yeux durs.
« Monsieur, je regrette, » me dit-elle, « mais vous ne pouvez pas voir Mademoiselle Alexandre. »
« Et pourquoi donc ?»«
Monsieur, les raisons qui m'obligent à rendre vos visites moins fréquentes sont difficiles à expliquer, et je vous remercie de ne pas m'en demander plus. »
« Madame, le tuteur de Jeanne m'a autorisé à voir Jeanne tous les jours.
Le tuteur de Mademoiselle Alexandre souhaite comme moi la fin de vos visites. »
« Merci, s'il en est ainsi, de me donner ses raisons et les vôtres. » Elle répond avec un calme sévère.
« Vous le voulez ? Très bien. Cette maison, monsieur, est une maison honorable. Je dois veiller comme une mère sur mes élèves. Vos visites sont trop fréquentes. Je dois les faire cesser.
Madame, j'ai entendu bien des bêtises dans ma vie, mais la bêtise que vous avez dite est la plus grosse. Je vous préviens que je continuerai à veiller sur Mademoiselle Jeanne Alexandre. Si vous lui faites du mal, attention à vous. Je sors. Je traverse la cour et regarde à droite et à gauche pour voir si j'aperçois Jeanne. Elle m'attendait et court vers moi. Si on touche à un de vos cheveux, Jeanne, écrivez-moi. Adieu.
Non, pas adieu.
Je réponds. Non, non, pas adieu. Écrivez-moi. Quand je rentre chez moi, j'apprends que M. Gélis est dans le salon. Ce jeune homme vient souvent. Aujourd'hui, sa visite me dérange. Je n'ai pas envie de parler des abbayes. Allons, pourtant, allons. Bonjour, monsieur Gélis. Comment allez-vous ?